Bien, merci beaucoup. J'espère que je vais m'en sortir dans cet exercice. Moi qui suis timide de nature. Je prie le bon Dieu de m'aider. Déjà, j'aime être deux. D'entrée de jeu, je salue ce qu'a fait mon oncle Odile. Ceux qui font pour moi s'inscrivent dans un courant de culture. Culture avec ce que j'appelle la distraction. Des gens osaient dire que pour cacher la vérité aux Africains, il fallait s'enfuir dans des livres. Parce que, disent-ils, l'Africain n'est pas libre. Et quand on voit que l'Afrique est un foyer intellectuel, l'Afrique produit des intellectuels, alors ils ont développé la stratégie de la distraction. Et cette distraction, ce sont nos téléphones, TikTok, Facebook. C'est pourquoi la lecture devient l'activité la moins consommée par les Africains. À travers le livre, comme l'a dit Robert Thomas, Enfant c'est facile, nous allons tous rentrer à l'intérieur. Et l'enjeu est double. Le premier, c'est se cultiver soi-même. Et le second, c'est construire soi-même sa relation avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, l'exercice qui m'est demandé ce soir, c'est de vous présenter un aspect de notre communauté, à savoir l'expérience spirituelle. Cet aspect, c'est l'anthropologie de tous développée par Claudine. Le champ linguistique qu'on appelle l'anthropologie est un champ très vaste. Alors j'ai décidé de le circonscrire en deux moments. Le premier, c'est de mettre en exergue les figures présentées par le auteur. Et cette figure, elle a choisi de les présenter comme des modèles de vie. C'est le premier moment. Le deuxième moment va constituer à faire une relecture de l'aspect systématique de l'anthropologie, à savoir la fin de la vie humaine. L'auteur aborde cet aspect de manière très subtile et qui, vous allez le découvrir avec moi, nous aidera à déconstruire nos paradigmes devant cette cruciale question qu'on appelle avant. Au premier point, notre auteur donne sur elle de nous présenter quatre figures à appréhender comme des modèles de vie. C'est ça son ingéniosité. La première figure qu'elle présente, c'est la figure de la Vierge Marie. Et personnellement, je suis resté très touché par cette apologie. Sur la question de Marie abordée par l'auteur, regardez ce qu'elle fait. Techniquement, elle ne perd pas le temps à nous endormir ou à nous rappeler les catégories que nous connaissons de Marie, à savoir la mère de Dieu, la mère de Jésus, la femme du fond présent. Non. Elle touche l'aspect de l'âge de Marie. À la page 119 de son livre, elle dit, Marie fut appelée par Dieu à 14 ans pour lui donner une mission sanctifiée, qui est celle d'être la mère de Jésus, 14 ans. Et elle pose une question qui devient une problématique, à savoir, est-ce qu'il y a un âge pour s'engager vers le chemin de Dieu? Nous reçoit Jésus-Christ.
Amen.
Louez soit Jésus-Christ. On applaudit pour cette femme. C'est une grosse problématique. En soulevant la question mariale, elle fait un lien direct avec la jeunesse. Donc ce livre est aussi un livre qui a pour cible la jeunesse. Parce que la jeunesse est le fond de notre nation. La jeunesse est ce qu'on appelle le pays de demain. Mais si cette jeunesse est distincte, regardez la maturité de Marie, 14 ans. Que l'ange vient me dire, je te salue Marie, comblée de grâce. L'auteur nous dit, c'est à 14 ans que Marie a eu cette audace, ce courage d'entrer dans le projet de Dieu. 14 ans. Pourtant, notre génération nous démontre que 14 ans, 15 ans, 16 ans, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des débats futiles. Où est Tom, où est la Fondation? Qui chante mieux, qui ne chante pas mieux? Notre jeunesse est beaucoup plus distincte par ce qu'on appelle le futile de la plus futilité. Le visage de Marie. Cette problématique doit être reconsidérée par notre jeunesse. Le deuxième personnage qu'elle utilise, nous sommes là à la page 122 de son livre, la figure d'Abraham. L'auteur souligne ici l'obéissance d'Abraham. Et ce qui me touche personnellement dans son approche à elle, c'est qu'elle est capable de réconcilier obéissance et confiance. Abraham obéit à Dieu parce qu'il a confiance en Dieu. Et là, elle met le double niveau. Le premier niveau qu'elle souligne avec Abraham dans l'obéissance, c'est Dieu dit à Abraham, quand il a 75 ans, quitte ton pays et va vers là où je vais te montrer. Abraham se lève. Obéissance à Dieu, il s'en va. Et le deuxième chemin qu'elle choisit de l'obéissance à Abraham, c'est ce que nous connaissons. Quand Isaac a 12 ans, Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac à sa fils. Et Abraham, totalement s'incline. Elle dit, et c'est ça qui est pour moi une phrase forte, on obéit parce qu'on a confiance. Et elle pose la question fondamentale, avons-nous assez confiance en Dieu? Non, on va me dire Dieu très fort. On va me dire Dieu très fort. Quand vous la lisez, vous demandez, est-ce qu'elle a fait théologie fondamentale? Est-ce qu'elle a fait théologie systématique? Pourtant, elle est catéchiste. Et c'est pourquoi je crois en ce livre de Bergens. Un livre, c'est l'inspiration de l'Esprit Saint. Dieu ouvre ton cerveau et infuse à l'intérieur des connaissances qu'on a eu besoin de 12 ans de formation pour apprendre ça. Elle a d'un mois, elle a mis ça dans ce livre. Comment Dieu t'a obéissance égale confiance. Voilà l'équation de la foi. Elle a sorti pour nous aujourd'hui l'équation de la foi. Obéissance égale confiance. J'obéis parce que j'ai confiance. J'aime parce que j'ai confiance. Ça, c'est le message d'Abraham. Et elle provoque Jean-Marie là, sans l'avoir cité. Elle provoque ce qu'on appelle le conséquentialisme de Jean-Marie là. La toute-puissance de la conséquence de nos actes. La conséquence de l'acte d'Abraham, c'était quoi? Bénédiction à perpétuité. Elle souligne en disant, Abraham en étant obéissant, Dieu a béni Abraham au-delà de ce qu'il espérait de faire lui-même. Ça, c'est la page 122. Dieu a béni Abraham au-delà de son espérance. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru en Dieu, a confiance en Dieu. Et dans le conséquentialisme, j'en là, c'est est-ce que nous mesurons les conséquences de nos actes? Surtout dans sa proportion positive. Louez moi Jésus-Christ. Le troisième visage qu'elle présente, c'est la maison de Joseph. Joseph est le 11e fils de Jacob. Ici, il ne s'agit pas de Joseph, l'époux de la Vierge Marie, non. Il s'agit de Joseph, le 11e fils de Jacob. On l'appelait l'homme des rêves. Le moins aimé par ses frères. Vendu par jalousie par ses frères en Égypte. Et Joseph finit par trouver grâce au père de Dieu. Notre auteur souligne ici la fermeté et l'abnégation de Joseph, le fruit normal, ainsi que les profits malsains de la vie. Nous connaissons ce qui s'est passé, Genèse 37, verset 1 à 50. Ça, c'est Joseph et la femme de Potiphar. Il refuse de céder à ses caprices. Elle compte une histoire autre. Joseph se retrouve en prison. Mais quel n'est pas ce qui le touche? Ce qui le touche dans sa perspective à elle, c'est être dans ce qu'on appelle le positivisme le plus important. Les bonnes personnes verront toujours l'éclat radieux du soleil dans leur vie. Au-delà de toute souffrance, comme on dit le psalmiste, une joie sans fin nous attend. Au-delà de toute souffrance, voilà ce que l'auteur dégage dans l'histoire de Joseph. Joseph a connu l'humiliation, il a connu le mépris, il a connu le traumatisme, l'abandon, le rejet de ses propres frères. Mais ils ont cru qu'ils ont fait du mal à Joseph en le vendant en Égypte. Mais Dieu a été capable de transformer ce mal en quoi? En un bien. Et Dieu a fait de Joseph la deuxième personnalité de toute l'Égypte. Et ce qui me touche, le deuxième aspect de son analyse de Joseph, c'est le refus de se venger. Quand ses frères reviennent et constatent que c'est Joseph, ils ont peur. Ils sont convaincus que comme numéro 2 de l'Égypte, Joseph va les poigner. Mais malheureusement, Joseph pleure et dit, je ne vous ai pas connu. L'auteur dit, le pardon est un acte unique qui fait de nous des enfants de Dieu. Le pardon est un acte unique qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la théologie fondamentale. Merci pour l'envoyer. Merci. Merci pour cette richesse académique. La dernière personne qu'elle traite, c'est la personne de Moïse. Ici, pour moi, il y a ce qu'on appelle monter en puissance. En traitant la question de Moïse, elle atteint le sommet de la puissance. C'est ce qu'on appelle en littérature, elle sonne le plat de sa réflexion. Et cette pièce, c'est quoi? Elle dit, le résumé de nos vies, c'est quand on réalise qu'on est devenu ami de Dieu. Voyez les personnages qu'elle a sélectionnés. Cette sélection ne s'est pas faite au hasard. Ce n'était pas une sélection à la vague. C'est une sélection méticuleuse. Parce qu'à chaque auteur, à chaque figure, il y a un message fondamental. Et quand elle arrive par Moïse, elle conclut en disant « Moïse est le visage par excellence. » Pourquoi? Parce que Moïse était devenu un ami de Dieu. Louez soit Jésus-Christ. Devenu un ami de Dieu. Moïse a communié avec Dieu. Moïse était devenu un privilégié de Dieu. Et vous savez que Moïse est le seul à qui Dieu a permis de voir quoi? Quelle partie de son corps? Quelle partie de son corps? Moïse, jamais. Tu vois son visage, tu vois. Dieu a dit à Moïse, si tu vois mon visage, tu meurs. Mais cependant, comme tu es mon ami, je ferai que tu vas voir mon dos. Moïse a vu le dos de Dieu. Il a vu la silhouette de Dieu passer, communier avec Dieu. Voilà sa première, le premier niveau de réflexion avec Moïse. Le deuxième niveau, et c'est ça qui nous touche de manière personnelle. Dieu a choisi Moïse pour éclairer le peuple d'Israël. Dans nos familles, soyons heureux de Moïse. Soyons fiers que Dieu nous choisisse pour être le Moïse de la famille. Que Dieu nous choisisse pour être celui qui monte la famille. Soyons heureux si Dieu nous choisit pour être celui qui élève la famille en haut. Mais malheureusement, le théâtre que nous voyons, c'est quoi? C'est que quand on choisit dans Moïse, il devient quoi? Arrogant, orgueilleux, insolent, méprisant. Je rappelle aux gens comment j'ai eu le bac à 14 ans, comment j'ai tué pour avoir ma licence à 17 ans, comment j'ai tué pour avoir mon concours à la fonction publique, pour avoir mon concours à où? Pourtant, sans Dieu, nous ne sommes rien. Louis toi Jésus-Christ. On applaudit pour mon Dieu. Enfin, le dernier niveau de son anthropologie, c'est la vision de la mort, qui restera toujours une problématique épineuse, car elle ne laisse aucune personne insensible. La mort provoque toujours un désarroi, provoque une forme de dépression chez certaines personnes. Mais maman nous dit, dans son ouvrage, à la page 62, elle vient faire ce qu'on appelle une déconstruction de cette catégorie. Elle vient déconstruire l'idée de la mort. Moi, je la cite. Je donne ce qu'elle a dit. Elle dit, parlant du décès de son mari. Je retrouve la phrase. Elle dit, l'idée de la mort n'était plus la même parce que mon époux était prêt. Moi aussi j'étais prêt. Un moment triste qui est devenu dénoué. Un moment d'assurance. Dieu nous a donné la force de transformer ce moment triste en un moment d'assurance. Ce qu'elle nous dit, elle nous dit dans notre cœur d'accepter notre grand foi, car Dieu seul détient l'ordre de nos vies. Comme nous dit le psalmiste, au fond 48, aussi longtemps qu'elle vivrait, toute vie va finir. Accepter la mort n'est plus simplement un défi anthropologique, mais c'est un acte de foi. À l'exemple de Jésus lui-même, qui avait capitulé encore dans le temps, quand il disait, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc chapitre 23, au verset 46. Si nous avons quelqu'un qui peut partir de son expérience à elle et tutoyer la mort et banaliser la mort, on ne peut que dire chapeau. Merci, Claudie Docteur. Merci. Car ton livre, intitulé Testament spirituel, entrera un jour dans le panthéon de la littérature chrétienne, comme image de la chrétienne qui aura œuvré pour ramener les vertus et créer en nous la confiance, l'amour, l'abnégation et la paix. Que Dieu te bénisse.